à la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière à Banin, au Liban.
Salam alaikum, ya mes chers amis du Liban. Au cœur de la cinquième lumière dans l'initiation des disciples par Jésus, je la rappelle, ceci est mon corps, notre attitude doit être de former un corps qui est l'Église. En premier lieu, il nous faut renoncer à l'individualisme de façon toute spéciale, à l'individualisme religieux. Être le plus grand apôtre, le meilleur serviteur, avoir le meilleur groupe ou être le plus saint. C'est très mauvais car cela nous maintient dans une attitude de concurrence avec tous les autres, entravant ainsi l'unité. Père Patrick Balland répète toujours que chaque forme religieuse est sacrée et un parfum unique de Dieu et il a raison. Que ce soit le Carmel, les Clarisses, les apôtres, les moines maronites et tous les autres ou Abana, nous sommes un parfum unique de Dieu. Nous sommes tous membres du corps du Christ, mais en même temps membres les uns des autres. Si nous n'assimilons pas ce principe fondamental, notre travail sera plus dangereux que bénéfique. De même que j'ai besoin de tous les autres, eux ont besoin de moi. Et c'est pour cela, je le répète ici, une caractéristique indiscutable du disciple de Jésus est qu'il est constructeur de l'unité et ennemi de la division. Jésus n'a pas formé des individus isolés, mais a créé un milieu de foi et d'amour où on produirait continuellement de nouveaux disciples. La communauté apostolique était cet hivernage et en même temps source jaillissante de disciples dans l'Église. Ce milieu de foi et d'amour fut dénommé d'ailleurs collège apostolique. Par collège, nous comprenons une institution, mais ce n'est pas une institution enseignante, mais une communauté où tous, guidés par un même esprit, sont responsables de mener à bien l'œuvre entreprise par Jésus. Le collège apostolique est la communauté de ceux qui sont chargés d'instaurer le royaume de Dieu, faisant des disciples partout. C'est à eux que revient de servir, conduire et présider la communauté, imitant Jésus-Christ dans sa façon de faire. Les bergers ne sont pas seulement chargés de guider, mais doivent eux-mêmes être engagés dans une communauté de leaders. Trop souvent, ceux qui sont responsables de construire la communauté chrétienne sont ceux qui vivent le moins en communauté. Les dirigeants montrent le chemin aux autres, mais qui les dirige, eux? Ils enseignent généralement, mais où se laissent-ils eux-mêmes enseigner? Ils donnent toujours, mais où reçoivent-ils? Que font-ils pour être renouvelés et grandir dans la vie de l'esprit sans s'épuiser? La communauté de leaders est la réponse et la solution. Un jour que Jésus rentra à Capharnaüm, quatre hommes allèrent chercher leur ami paralysé. Ils le mirent dans son lit pour le mener à Jésus. Ne pouvant entrer dans la maison où se trouve le maître, ils le montèrent sur le toit et le firent descendre par une ouverture qu'ils firent eux-mêmes. Peu après, l'homme sortait lui-même portant son grabat. Dans ce simple récit, nous sont donnés les éléments essentiels d'une communauté. L'atmosphère d'amour dans laquelle nos amis nous portent quand nous ne pouvons plus avancer. Les amis qui nous mènent à Jésus pour que nous soyons guéris. Une fois guéris, il nous est demandé de porter notre lit et de devenir responsables, donc libres. Pour savoir si nous avons vraiment une communauté, chacun de nous doit répondre aux questions suivantes. Est-ce que j'ai quatre vrais amis? Est-ce que je peux compter de façon inconditionnelle sur ces quatre pour qui j'importe plus que toute autre chose? Y a-t-il quatre personnes prêtes réellement à me porter vers Jésus? Quand je tombe, y en a-t-il quatre pour me relever? Quand je désespère, y en a-t-il quatre pour me réconforter? Est-ce que j'ai quatre confidents à qui je puis ouvrir mon cœur avec ses luttes, ses succès, ses échecs et ses tentations? Et à l'inverse, je dois me poser les mêmes questions. Suis-je inconditionnel de quatre personnes? Y a-t-il quatre personnes qui peuvent frapper à ma porte à n'importe quelle heure? Y a-t-il quatre personnes qui, en cas de difficulté financière, pourraient avoir recours à moi? Y a-t-il quatre personnes qui savent qu'elles sont plus importantes pour moi que mon travail, que mes projets? Est-ce que j'accompagne et me charge, c'est-à-dire prends la responsabilité, de quatre personnes, les amenant à Jésus, coûte que coûte, quoi qu'il arrive? Si un leader ne vient pas d'une communauté, d'où va-t-il sortir? S'il n'a pas vécu de l'intérieur ce qu'est une communauté, comment va-t-il la servir et la diriger? De là la vision pastorale de Jésus d'instituer la communauté. Les apôtres, avant de diriger la communauté, furent enseignés en communauté. La sixième lumière dans l'initiation des disciples par Jésus est « Prenez ce pain et mangez-en tous ». De même que le pain eucharistique est mangé, de même le disciple de Jésus doit être mangé. Ceci signifie qu'il se livre en faveur des autres. C'est comme une bougie qui se consume en éclairant les autres. Être mangé signifie être au service des autres et livrer sa propre vie pour que d'autres vivent. Il existe divers tableaux du bon pasteur. Nous connaissons tous les classiques de Raphaël et de Murillo, où apparaissent un tendre berger, pasteur, embrassant de façon romantique une brebis. Les statues qui nous présentent le berger sont si baroques et si mielleuses qu'elles sont très loin de la réalité. Il est intéressant de comparer les mauvais pasteurs d'Israël que nous présente le prophète Ézéchiel dans le chapitre 34 de son livre à l'attitude du serviteur d'Adonai qui apparaît dans le prophète Isaïe. Les mauvais pasteurs se paissent de leurs brebis, ils boivent leur lait, se vêtent de leur laine et sacrifient la plus grasse. Le serviteur d'Adonai donne sa vie pour les siens et meurt pour que les autres soient guéris et vivent en paix. Le mauvais pasteur cherche toujours à tirer avantage de ses brebis. Au contraire, le bon pasteur abandonne toujours quelque chose pour elles. C'est ce qui distingue précisément l'un de l'autre. Le bon pasteur se livre pour tous. Il n'a pas de préférence. Parfois, cependant, il le fait d'une manière spéciale pour le plus nécessiteux ou pour celui de qui il ne peut rien recevoir en échange. Les pasteurs intéressés servent ceux qui ensuite peuvent récompenser leur service ou les rétribuer d'une quelconque manière. Le disciple de Jésus, à la suite de son maître, est mangé par les autres. Sans cette condition fondamentale, il ne pourra jamais être fécond. Si le blé n'est pas broyé et mangé, il ne sert pas d'aliment. Ce n'est que lorsque Jonas fut mangé qu'il fut capable d'évangéliser et de convertir la grande ville de Ninive. Notre attitude est « mangez-moi ». Le véritable apôtre est celui qui meurt pour donner du fruit. Son bonheur, il ne le trouve pas en commandant ou en organisant, mais en disparaissant au moment opportun. Il sait qu'un jour, il va mourir. Pour cela, il préfère se livrer comme un aliment qui produit la vie et non de manière stérile. Et ceci exige des attitudes concrètes. Cessez de penser que l'apôtre est celui qui ordonne. Au contraire, c'est celui qui meurt pour que les autres vivent. Cessez de considérer les bénéfices que nous devons recevoir et renoncer à tout sauf à nous livrer pour les autres. Cessez de nous centrer sur les privilèges que nous méritons et commencez à servir tous. Être mangé signifie être à l'entière disposition de celui qui a besoin de nous. De même que nous avons donné un oui inconditionnel au Seigneur. Il nous faut donner à tout son corps ce « oui », nos frères, et leur dire « Me voici, faites de moi ce que vous désirez, la seule chose que je désire est de vous laver les pieds. » Être mangé signifie aussi renoncer à toutes sortes de bénéfices personnels dans le but que les autres soient édifiés dans la foi et dans l'amour. Bien sûr, il est possible de recevoir des biens matériels de ceux qui le peuvent en reconnaissance aux bénéfices spirituels de la prière offerte, mais que ces biens soient toujours pour la communauté et surtout pour son amélioration ou son apostolat. La septième lumière arrive, mais avant de la recevoir, prions.
Dieu qui nous aime, bénit ceux qui s'aiment, car leur amour a sa source en toi. Dieu qui nous aime, bénit ceux qui s'aiment, que leur amour soit signe de toi. Que la fête de l'alliance de l'homme et de la femme soit signe de l'alliance de Dieu avec le monde. Que la fête de l'amour de l'homme et de la femme soit signe de l'amour du Christ pour son Église. Que l'union dans le mariage de l'homme et de la femme soit signe du mystère de Dieu en trois personnes. Que la sainteté vécue par l'homme et par la femme soit signe de l'Esprit qui sanctifie l'Église. Que les gestes de pardon de l'homme et de la femme soient signe du pardon que Dieu offre à son peuple. Que l'ouverture à la vie de l'homme et de la femme soit signe de la vie dont Dieu comble son peuple.
Dieu qui nous aime, bénis ceux qui s'aiment, car leur amour a sa source en toi. Dieu qui nous aime, bénis ceux qui s'aiment.
Oui, Jésus nous initie en une septième lumière. Faites ceci en mémoire de moi. L'étape suivante dans la formation du disciple est de répéter exactement la même chose que le maître. Faites ceci en mémoire de moi. En premier lieu, comprenons cette parole d'une façon passive. Nous devons nous laisser faire par le maître, consentir à ce que lui nous conduise dans ce processus qui fait de nous des disciples à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire qu'entre les mains de Jésus, le disciple doit arriver à être Eucharistie, hostie vivante, qui s'offre au Père pour le salut de tous les hommes. Le disciple est pain, pain qui se transforme, mais en même temps, il est autel où Jésus lui-même s'offre, et prêtre qui offre le Christ et qui s'offre avec lui. En second lieu, notre Seigneur veut nous dire « Refaites de même pour former des disciples. Il n'y a pas d'autre chemin. Il ne s'agit pas d'entraîner ces gens dans des techniques ou des dynamiques de groupe ou de les former au langage de la communication. Leur vie doit être Eucharistie. Sinon, ils ne peuvent devenir des disciples de Jésus. Jésus nous a envoyés enseigner tout ce qu'il nous avait montré. Nous trouvons la synthèse de son programme de vie dans l'Eucharistie. Ce que nous devons enseigner aux autres, c'est d'être Eucharistie pour tous ceux qui portent en eux ce pourquoi Jésus est mort. La sagesse du formateur de disciples est de connaître ce chemin et de le parcourir avec ceux qu'il modèle comme disciples. L'Eucharistie n'est donc pas seulement une célébration, mais une vie qui se forme en chaque disciple du Maître. Chaque disciple doit être Eucharistie, uni à l'unique victime d'agréable odeur qui s'est offerte pour le salut de tous les hommes. C'est le programme de vie et l'itinéraire par lequel passe un disciple qui désire être comme son Maître. Jésus, seul Maître intérieur, détient la clé de tous les mystères. Il attend que l'oreille, les yeux et le cœur du disciple soient aptes à l'écouter, le voir et à laisser son cœur s'embraser en plongeant dans la lumière divine. En ce 21e siècle, c'est cela qu'il faut méditer longuement, devant Jésus hostie, si l'on veut répondre à l'amour divin et avoir accès à cette unité intérieure qui forme le trésor caché de notre foi chrétienne, parce que la sagesse divine rassemble la connaissance amoureuse et l'amour connaissant. Le priant chrétien devient comme un être ailé, avec des ailes. N'ayez pas peur de devenir des personnes ailées, avec des ailes, même si la majorité des hommes ne vous comprennent pas ou si l'on vous taxe d'originalité. Oui, un être humain ailé, avec des ailes, devient obligatoirement solitaire, et sa joie trouve sa source dans son intériorité. Mais il existe une communion sainte et secrète entre les êtres ailés. Ils sont protégés. Puisse cette communion discrète nous rassembler toujours dans le visible et dans l'invisible. C'est ma prière à notre Père. C'est notre prière d'Abana. La vie mystique, c'est le cœur au ciel et les pieds sur la terre. L'éveil libérateur s'accomplit dans le désert, c'est-à-dire dans le pays de la soif, du désir, de la lecture des signes et de la rencontre. La véritable rencontre s'effectue au-dedans et devient expérience. Une expérience indicible, dont l'essentiel est inconnaissable. Expérience intérieure de la présence. Ce sont les visites du Verbe, les manifestations de la présence dont parle saint Bernard. Quand l'âme est purifiée de toute idolâtrie, elle devient capable de savourer l'expérience d'une présence. Elle pénètre dans la contemplation. L'expérience éprouvée est intransmissible. et la discrétion s'avèrent nécessaires. Cette présence est celle de Jésus, sagesse divine, icône du Père, présence singulière, qui se tient dans une dimension de profondeur et dont le discernement forme l'appel à s'engager sur le chemin mystérieux qui va vers l'intérieur, selon les mots du poète romantique allemand Novalis. En effet, une fois cette présence découverte, l'homme comprend que le livre des secrets est en lui et s'offre à son déchiffrement. Et toute l'expérience spirituelle chrétienne constitue le déchiffrement du livre des mystères, ou je dirais plutôt le livre des aurores. De lumière en lumière, mais comme on le sait et on l'a déjà exprimé, pour arriver à découvrir en soi l'esprit de sagesse, il faut passer par le feu des souffrances, le dénuement, le vide, et avoir accès à la connaissance de soi avec nos limites et nos faiblesses. Je crois pouvoir dire que la différence entre les hommes se réduit à celle-ci, la présence ou l'absence de l'expérience spirituelle. Et d'autre part, que si lumineuse soit cette expérience, si elle n'est pas acquise une fois pour toutes, mais elle est vouée à des approfondissements successifs. On monte la vie, on ne la descend plus. Autrefois, les amants du mystère donnaient trop d'importance à la souffrance. Je crois que la souffrance, il ne faut pas la chercher ou l'aimer comme si c'était le moyen le plus rapide. Pour moi, comme le dit Maître Eckhart, le moyen le plus rapide, c'est le détachement de soi. Chercher la souffrance, le bien fondé de la souffrance, nourrir la souffrance, c'est une façon de tourner en rond sur soi. Jésus se livre au mal pour libérer l'amour, et Dieu répète qu'il ne veut pas de sacrifice, mais l'amour. La croix est glorieuse, et nous sommes fiers de la regarder et d'y puiser notre vie et notre salut. Ne recherchons pas la souffrance. Acceptons chaque jour le poids de nos difficultés ou celle de nos frères, en demeurant dans la confiance et la joie. Unissons-nous à la croix de Jésus. Son fardeau est doux et léger. Dieu veut combler ses enfants, et Dieu ne donne jamais à l'homme une douleur qu'il ne peut supporter. Dieu est bonté. Chaque chrétien est perpétuellement crucifié et ressuscité en Christ. Et nous devons porter sur nos visages le scintillement de notre appartenance au Christ. Nous devons rendre ce monde plus habitable. Si vous adorez Jésus hostie, il vous offre l'union à sa sagesse divine, libération délicieuse qui vous entraîne dans le tréfonds de l'acte trinitaire créateur. Seule la sagesse et la philosophie mystique possèdent l'amour des sources. Elles ne sont pas le privilège des ermites ou des moines, mais de tous ceux qui, durant leur pèlerinage terrestre, ont pu devenir un. Il n'existe qu'une source, le Très-Haut devenu le Très-Bas, l'Absent devenu le Tout-Proche. Et si Dieu se dérobe et se cache, c'est pour qu'on le désire encore et encore et encore. À méditer, mes chers amis. Sainte semaine. Amen.
À la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière Abana au Liban.